franceinter.fr.
Et à la une de la science aujourd'hui, une étude alarmiste qui fait beaucoup de bruit depuis maintenant un peu plus de 24 heures. L'exposition des parents aux perturbateurs endocriniens favoriserait fortement les cas de malformations génitales chez les nouveau-nés garçons.
En fait, l'étude, elle a porté sur les malformations de la verge du petit garçon. Cette malformation, elle s'appelle l'hypospadias, c'est-à-dire que l'urètre, le tuyau qui amène les urines, n'est pas complet. Et à la place d'uriner par le bout de la verge, les enfants urinent par dessous. Il y a de nombreuses études qui ont suspecté que les pesticides ou que les autres perturbateurs endocriniens, ces substances chimiques qui vont interférer avec les hormones, puissent participer.
Et c'était la voix de l'urologue Nicolas Calfa qui signe avec vous, Charles Sultan, cette étude donc dans la revue European Urology. Bonjour à vous.
Bonjour monsieur.
Vous êtes professeur au service d'endocrinologie pédiatrique du CHU de Montpellier. Puis dans ce studio, pour commenter votre travail, notre médecin chroniqueur Dominique Dupagne. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Charles Sultan, les hommes et les femmes exposés à des détergents, des solvants et à des pesticides auraient trois fois plus de risques donc de donner naissance à des petits garçons souffrant de malformations génitales. Ça, ce sont les conclusions de votre travail, hein?
Oui, tout à fait. J'aurais simplement aimé préciser la force du travail, mais si vous me laissez quelques secondes, je me permettrai de le faire.
Eh bien, faites-le, absolument.
Eh bien, je crois qu'il existait jusque-là des données contradictoires sur l'impact de l'environnement sur les malformations génitales. Nous avons nous-mêmes conduit un travail il y a une dizaine d'années dans le cadre d'un projet européen. La force donc de ce travail qui s'est étalé sur 5 ans reposait sur 5 paramètres. La première, la taille de la série, 300 nouveau-nés hypospades et l'existence d'un groupe contrôle. Deuxièmement, au caractère prospectif de l'étude et non pas rétrospectif avec tous les biais. Troisièmement, nous nous sommes limités à l'hypospadias isolé et non plus associé à un micropénis ou à une cryptorchidie, c'est-à-dire un testicule non descendu. Quatrièmement, nous avons éliminé la majorité des facteurs génétiques. Et donc, nous avons séquencé pour ces 300 patients les gènes impliqués habituellement dans le développement d'un hypospadias. Donc, un travail de génétique moléculaire considérable. On pouvait donc être capable de considérer ces hypospadias comme idiopathiques, c'est-à-dire non génétiques. L'hypothèse environnementale a été soulevée et nous l'avons validée par une matrice profession-exposition.
Donc là, vous nous avez décrit hein, vraiment toute la méthodologie de votre travail.
Et, oui.
Et pourtant, Dominique Dupagne, cette étude vous pose problème. Pourquoi ?
Oui, alors en préambule, je précise que je n'ai aucun lien avec l'industrie des pesticides ni chimiques, que je rêve d'un monde sans produits chimiques, sans pesticides, que je fais du compost sur ma terrasse, que je ne circule qu'à vélo et que je préfère les produits bio. Ça, c'est pour éviter les conflits d'intérêts, en tout cas les procès d'intention.
Je m'en réjouis, monsieur.
Voilà, et donc, parce qu'il y a beaucoup malheureusement de conflits d'intérêts dans ces affaires. Et donc moi, j'ai deux problèmes en fait. J'ai un problème intrinsèque sur l'étude elle-même et j'ai un problème sur la médiatisation de l'étude. Sur l'étude elle-même, sur le contenu scientifique, vous avez deux groupes dans lesquels vous avez, dans un des deux groupes, deux fois plus de prématurés, c'est le groupe des hypospades. Il se trouve que la prématurité est un facteur connu pour provoquer les hypospades. Et donc, comment est-ce que vous pouvez comparer d'autres facteurs environnementaux alors que vous avez déjà ce facteur majeur qui diverge dans les deux échantillons? Et ensuite, le principal perturbateur endocrinien connu, je parle des connus, pas des présumés, parce que les autres sont souvent présumés, c'est le soja. Or, le soja n'est pas présent dans les produits surveillés ou étudiés dans cette étude. Est-ce qu'il y a une raison? Enfin, il y en a, bien sûr, mais pourquoi est-ce que vous ne l'évoquez pas dans la publication?
Alors, Charles Sultan, vous répondez à ces deux points?
Alors, premier point, nous avons essayé d'homogénéiser les groupes. Et en termes de prématurité, les données ne sont pas aussi univoques que celles que vous semblez le dire. La prématurité est un facteur de risque pour la cryptorchidie, mais pas autant pour l'hypospadias.
Donc, alors, est-ce que vous pouvez juste nous éclairer, s'il vous plaît, parce que là, vous parlez un jargon que nous ne comprenons pas.
La cryptorchidie étant la migration testiculaire, on sait qu'elle apparaît en fin de gestation et chez les prématurés, il y a un pourcentage d'enfants cryptorchides que l'on observe. C'est un phénomène qui est connu et c'est la raison pour laquelle la cryptorchidie ne doit pas être un facteur pris en compte dans l'évaluation de la pollution environnementale. Donc ça, c'est un point. En revanche, la prématurité n'est pas considéré, et j'attends qu'on m'en apporte des preuves, je suis prêt à faire amende honorable s'il y a une erreur méthodologique, mais la prématurité ne représente pas un facteur déterminant dans le dans la malformation hypospadiale.
Là, vous n'êtes pas d'accord du tout, apparemment, Dominique Dupagne.
C'est une malformation qui survient très précocement, très précocément. Pendant la fenêtre de sensibilisation, c'est-à-dire les premiers mois de la vie. Donc rien à voir avec la maturation fœtale.
Et sur le second point, alors, pour répondre à Dominique Dupagne.
Alors, second point, c'est la première fois qu'une étude aussi solide est publiée dans un domaine où les données sont extrêmement contradictoires, dans une région où la pollution est l'un des facteurs de risque les plus importants. Et c'est la première fois qu'un travail a été publié dans une revue d'impact facteur aussi élevé, qui est l'impact de 12,5. La médiatisation, la cellule de communication a considéré, dans le droit ligne de nos études sur environnement et santé, qu'il fallait en faire état auprès de la presse. Et voilà pourquoi je suis engagé très fortement en tant que pédiatre endocrinologue dans la défense de l'environnement et dans la protection du fœtus. C'est le seul combat, je n'ai aucun autre intérêt si ce n'est celui de la protection de la femme enceinte. Yeah. Voilà pourquoi nous avons signé avec Gérard Bapt il y a 2 ans l'appel de Montpellier. Et voilà pourquoi je participe aux différents PNSE, groupes d'experts, pour tenter d'apporter notre contribution, non plus à partir de données théoriques, mais à partir d'observations cliniques.
Allez, une dernière question.
Oui. La question que tout le monde se pose, d'ailleurs, je vais la poser à Dominique Dupagne. Quand on est agriculteur, femme de ménage ou employé d'usine, donc on est exposé, faut-il, oui ou non, s'inquiéter des risques de malformation de nos enfants ?
Pour le moment, quand on exerce ces professions, on est exposé déjà, encore une fois, un petit peu de naissance ou une prématurité, et de là à extrapoler sur des produits d'environnement, on peut l'envisager, mais c'est pas pour rien qu'il y a un point d'interrogation dans le titre original de la publication scientifique, qui n'est pas « les facteurs environnementaux favorisent l'hypospadias », mais « est-ce que ces facteurs favorisent l'hypospadias ?» Parce qu'encore une fois, on peut pas considérer que cet article apporte une vraie démonstration. C'est une hypothèse, et cette médiatisation, parce que la cause est bonne, parce que moi aussi, je pense bien sûr qu'il faudrait moins de pollution et moins de pesticides, me paraît de nature à inquiéter, et c'est le cas maintenant toutes les semaines quasiment, le public. Alors certes, il y a un côté militant, mais on fait de la science, et moi en tant que chroniqueur scientifique, je suis là pour permettre au public, aux auditeurs, de reconnaître ce qui est vraiment important et ce qui l'est moins. Et moi, je suis désolé, cette étude, pour moi, est une étude qui pose des hypothèses, mais qui n'emporte pas la conviction.
Allez, Charles Sultan, le mot de la fin, pour conclure rapidement, s'il vous plaît.
Oui, alors je me permets d'ajouter 3 choses, parce que là c'est un peu plus direct. Mon équipe a publié 450 papiers. Deuxièmement, j'ai reçu le prix mondial d'endocrinopédiatrique sur des bases scientifiques. J'ai présidé le conseil scientifique de l'université de la faculté de médecine de Montpellier. Donc, les données scientifiques, nous savons les analyser. Et quand vous avez un risque relatif de 11 de l'impact de la pollution sur l'hypospadias, quand vous considérez que dans les méta-analyses, dans les analyses de Cochrane, les Cochrane Database, à partir de 1.1, on retient la signification d'un travail, nous sommes à 10.9, vous avez le droit de douter. Dante disait « plus que penser, douter me plaît ». Soyez dans le bien.
Voilà, il doute Dominique Dupagne. En tout cas, merci pour vos explications, Charles Sultan, à l'occasion donc de la publication justement de votre travail dans cette revue European Urology. Merci beaucoup pour vos éclaircissements. Axel, on se retrouve demain pour une nouvelle une.
Oui, demain et celle d'aujourd'hui, vous pouvez tous la réécouter en podcast comme toutes les unes.
Sur franceinter.fr. Allez, et puis en bref, dans le reste de l'actualité, des chercheurs américains ont découvert de nouvelles branches du système lymphatique. Les vaisseaux en question sont logés à l'arrière du crâne et relient directement le système lymphatique avec le cerveau. Jonathan Kipnis, qui est à l'origine de la découverte, se dit très surpris parce que tout le monde pensait qu'on en avait fini avec la cartographie du corps il y a 50 ans. Ces nouveaux canaux seraient primordiaux dans la détoxification du cerveau, permettant de prévenir les maladies dégénératives comme Alzheimer. La grotte de la persistance dans le Dakota nous livre ses premiers secrets. Sa découverte en 2004 était restée secrète jusqu'à aujourd'hui pour éviter les pillages. Et bien la semaine dernière, les chercheurs ont enfin brisé l'omerta et ils estiment à plus de 100 000 le nombre d'os d'animaux enfouis à l'intérieur. Les squelettes datent de la fin du paléolithique et vont permettre aux scientifiques d'en savoir plus sur la faune mais également sur le climat de l'époque. Et puis pour finir, la société américaine de chimie nous explique enfin la mystérieuse odeur que dégagent les chiens mouillés. Le caractère gras et huileux de la peau du chien en fait un habitat parfait pour des milliers de bactéries et de levures, un véritable écosystème. Rajoutez-y de l'eau et voici que de nombreuses molécules odorantes qui se dissolvent à l'intérieur et deviennent perceptibles sont là. La meilleure solution pour éviter les désagréments reste le bain une fois toutes les deux semaines pour nos amis les chiens.